Je vous rappelle que nous sommes avec Patrick Cabanel et que nous continuons notre émission consacrée à la nation. Patrick Cabanel est historien, directeur de l'équipe Diaspora à la faculté de Toulouse-Le Mirail. Il est aussi l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages dont le dernier s'intitule « Le tour de la nation par des enfants » publié aux éditions Belin. Alors nous avons vu avec lui dans cette première partie que les nations étaient des constructions souvent imaginaires et qui restaient fragiles dans le temps. Alors qu'en sera-t-il demain avec la construction européenne? Nous le savons, certains en Europe ne verraient pas d'un bon œil la disparition des nations qui la composent aujourd'hui. Le scénario a déjà été d'ailleurs esquissé et on peut considérer que l'aide européenne au développement des régions n'est pas sans conséquence dans les pays où les revendications d'indépendance régionale sont les plus fortes. Alors certains vont même jusqu'à imaginer, orchestrer parfois, la disparition des langues nationales au profit de l'anglais qui deviendrait alors une langue de commandement pour tous les Européens à côté des langues régionales qui auraient été sauvegardées. Bernard Kouchner, dans son livre qui a pour titre « Deux ou trois choses que je sais de nous » et qui a été publié en 2006 chez Robert Laffont, ne dit pas autre chose. Voilà ce qu'il déclare au chapitre 146. « Après tout, dit-il, même riche d'incomparables potentiels, la langue française n'est pas indispensable. Le monde a bien vécu avant elle. Si elle devait céder la place, ce serait précisément à des langues mieux adaptées aux besoins réels et immédiats de ceux qui la délaisseraient. » La langue française peut bien disparaître et être remplacée par l'anglais. Ce genre de lecture nous laisse en effet envisager une disparition éventuelle de la langue française et pourquoi pas de la nation française. Alors l'Europe menace-t-elle la nation? La réponse de Patrick Cabanel.
Oui, dans certains pays, les opinions publiques considèrent, à tort ou à raison, il me semble qu'elles n'ont pas complètement raison, que l'idée de nation a été une idée meurtrière, une idée létale, et que les guerres mondiales, quelquefois même les génocides, je pense à l'ex-Yougoslavie par exemple, s'expliquent par l'idée de nation. Et là je crois qu'il y a une confusion. La nation n'est pas le nationalisme, je le disais dans la conférence, de même que l'islam n'est pas l'islamisme, que le catholicisme n'est pas le cléricalisme, la nation n'est pas le nationalisme. Il ne faut pas confondre une idée avec la perversion idéologique agressive de cette même idée. Et il me semble que la tentation d'évacuer de l'histoire la dimension nationale au profit effectivement d'une dimension plus large qui serait l'Europe et puis d'une dimension plus intime qui serait la région, qui serait le pays, cette tentation-là est très intéressante, très respectable, mais je crois qu'il y a un risque à oublier l'importance dans l'histoire de ce que furent les nations et de ce que furent les langues nationales. Et moi je n'aimerais pas, je le dis, vivre dans un monde où nous aurions à notre disposition, par exemple, le basque et l'anglais. Parce que l'Europe aura une langue, mais qui ne sera pas l'européen, qui sera l'anglais. Et je préfère vivre dans un monde où chacun aura, disons, trois langues, le basque, le castillan et l'anglais, l'occitan, le français et l'anglais. Mais pas l'anglais comme langue de commune, et puis ces langues intimes que j'aime. Mais il faut que l'échelon intermédiaire de ces grandes langues, qui, il faut le dire, dans le cas du français ou de l'espagnol, de l'italien, ont été aussi des langues universelles de culture. Quelques-uns des plus beaux romans ont été écrits en espagnol, en italien, en allemand, en français. Et ce serait dommage de perdre cette échelle-là, cet échelon-là de notre culture.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Oh. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes,
we can.
If there
is anyone out there who still doubts
yes,
that America is a place where all things are possible,
yes, we can.
Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.
I went to sleep last night, tired from the fight. I've been fighting for tomorrow all my life. Yeah, I woke up this morning feeling brand new, 'cause the dreams that I've been dreaming is finally true. It's a new day.
vient de voir aux États-Unis une élection très importante et très particulière dans leur histoire. C'est l'arrivée à la tête de l'État donc, d'un métis. Et alors, ce qui a beaucoup frappé, c'est l'arrivée donc, d'un noir à la tête de l'État. Et si on écoutait bien quand même le discours d'Obama, au-delà de ce qu'il représente comme symbole, c'est qu'on voit bien que c'est un Américain qui a la fibre nationale et patriotique aussi. Ça, c'est quelque chose qui passe un petit peu de côté en France, parce qu'on a l'impression qu'en France, la nation n'est pas aussi portée qu'elle peut l'être aux États-Unis.
En France, quelquefois, on redoute, ou on ironise, ou on méprise sur, entre guillemets, le nationalisme de certains États, la Suisse, et puis effectivement les États-Unis. On voit qu'il y a beaucoup de drapeaux aux États-Unis, et pas seulement sur les bâtiments officiels. Et alors que, bien sûr, la nation américaine a pu se transformer en nationalisme agressif, la présidence précédente l'a montré, mais Obama incarne, si j'ose le dire, le meilleur de l'idée française de nation. C'est-à-dire que ce qu'a dit Obama dans son discours, c'est ce qu'a dit Renan en France il y a un siècle, c'est l'idée qu'une nation, c'est un contrat ouvert, ouvert aux Noirs s'il le faut, ouvert aux étrangers. La nation américaine, c'est pas le sang blanc des fameux WASP, les White Anglo-Saxons protestants qui ont perdu l'élection, si on peut dire, mais la nation américaine, c'est le désir de vivre ensemble qui fait que des gens peuvent venir du monde entier pour participer de ce qu'est une nation au meilleur sens du terme, c'est-à-dire une promesse, une espérance, un rêve, mais aussi un effort. C'est pas donné, ça se conquiert par un travail à la fois personnel et collectif, et je crois que Obama a incarné le meilleur de l'idée de nation au sens universel du terme. Il l'a dit avec l'accent américain, mais je crois que s'il y a un pays au monde qui pouvait comprendre ce que disait Obama, c'est bien la France héritière de cette idée de nation qui a fait que des millions d'immigrés sont devenus aujourd'hui tout simplement les plus communs, ou les meilleurs comme on veut, des Français.
Dans la cité des grands champs, le débat sur la nation délie les langues et parfois irrite.
Vous savez, moi, mon grand-père a fait la guerre de 14-18, mon père a fait la guerre de 39-45, donc je sais ce que le mot nation et république veut dire.
À l'heure actuelle, aujourd'hui, il faudrait presque se cacher derrière autre chose que derrière le drapeau français. Je pense que c'est pas logique. Se cacher de qui ? De la façon dont on peut être vu en France. On est mal vu, suffit qu'on impose le drapeau français, on devient extrême droite, tout simplement. Quoi.
Être français pour d'autres, ce serait tout simplement vivre ici.
Pour certains d'entre nous, on a été colonisés pendant des années et des années par la France. Aujourd'hui, c'est normal qu'on vienne en France. C'est notre pays, quoi. Aujourd'hui, c'est la France, c'est un tout. C'est aussi la colonisation, c'est toute une histoire.
Ouais, français, c'est être citoyen de la France. Avoir ses droits, pouvoir s'exprimer.
C'était Pierre Nora, je crois, qui disait que dans un article, le nationalisme nous avait caché la nation ici en France. Alors, j'ai relevé une vieille citation qui est très connue et qui a été reprise souvent lors de la dernière campagne électorale. C'est une citation de Marc Bloch et qui dit « Les deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération, peu importe l'orientation de leurs préférences, leur imperméabilité au plus beau jaillissement de l'enthousiasme collectif suffit à les condamner. » Est-ce que ce clivage-là, il existe encore en France ?
Non, je crois que ce clivage s'est beaucoup affaibli entre une France blanche qui se souvient des rois, et dont Maurras aura été vraiment le grand théoricien de la première moitié du XXe siècle, et puis une France rouge ou bleu-blanc-rouge, qui, elle, préfère se souvenir effectivement de la Révolution, et dont le maître vibreur est Michelet, hein, Michelet-Maurras. Je crois qu'aujourd'hui, ces choses-là sont un petit peu oubliées et que globalement, je dirais qu'il y a deux types de gens. Il y a ceux qui se souviennent que la nation, ce n'est pas seulement les guerres mondiales, ce n'est pas seulement les nationalismes, ce n'est pas seulement le risque de génocide des Juifs par les Allemands, des Arméniens par les Turcs ou en ex-Yougoslavie, que la nation a été aussi dans l'histoire au temps, effectivement, d'un certain nombre de rois, au temps de la Révolution française, de la Troisième République. La nation a été une idée de progrès, la nation a été une espérance collective. collective. Et ça, je crois que ce serait dommage de le perdre.
Oui, mais en ce moment, on voit des historiens ou même toute une nouvelle génération avoir une position un peu de procureur en direction du passé, en direction de l'histoire. Vous venez justement de le rappeler. Certains disent notamment que on a oublié les guerres coloniales et que l'immigration post-coloniale en souffre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que on a égaré en chemin toute une période de l'histoire et qu'on n'a pas intégré à notre récit national? Est-ce que ça explique tout des difficultés aussi que peuvent avoir un certain nombre de populations à s'intégrer à la nation française?
Alors c'est vrai qu'un récit national se construit autant sur des oublis que sur des remémorations. Il y a des lacunes dans le récit national, ces lacunes sont appelées à être comblées. Longtemps, la France a par exemple très largement oublié ce qu'aura été la vraie nature de 14-18, c'est-à-dire la première guerre moderne totale. Longtemps, la France aura oublié sa responsabilité dans la Shoah, aujourd'hui ça s'est terminé. La France est en train de revenir effectivement sur son passé colonial, sur la guerre d'Algérie, sur l'histoire de l'immigration. Et là, on trouve quelque chose qui est tout à fait banal, c'est-à-dire cette dialectique ou ce conflit entre l'histoire, avec cette quête du singulier, l'histoire d'une nation, et puis les mémoires qui sont toujours plurielles et qui sont souvent des mémoires en conflit, des mémoires en revendication, à tort ou à raison. Mais un récit national se construit sur l'intégration, peu à peu, d'un certain nombre de mémoires. Et il est frappant aujourd'hui de voir effectivement cette querelle des mémoires, cette querelle aussi, comme on l'a dit, des victimes, cette concurrence des victimes et cette concurrence des mémoires qui prouve que la France est en train, effectivement, de réécrire son récit national, mais ça, elle l'a déjà fait au préalable. Très longtemps, il y a eu en France une chorale des mémoires, vous le disiez à l'instant, avec Marc Bloch, autour du passé. Est-ce que le vrai passé français, c'était le passé chrétien, ou est-ce que c'était le passé des Lumières? Et aujourd'hui, le récit national a réussi à intégrer ces deux passés. Je pense aussi que le récit national réussira à intégrer un certain nombre de moments difficiles, et à dire que l'immigration, c'est pas seulement l'histoire de difficulté de rejet, c'est aussi l'histoire de réussite, c'est aussi l'histoire d'une intégration. Et là, on retrouve le destin des États-Unis d'Amérique, qui ont montré que le destin des Noirs, c'est le destin de l'esclavage, de la ségrégation, mais que ça peut aussi devenir le retournement du destin et l'intégration.
Vous savez, moi, mon grand-père a fait la guerre de 14-18, mon père a fait la guerre de 39-45, donc je sais ce que le mot nation et république veut dire.
C'est quoi être français? On se la pose éternellement, j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais y répondre. Je crois qu'il faut cesser. Non, parce qu'être français, c'est avoir la carte nationale, c'est avoir la carte d'identité française. Je veux dire, au-delà
évidemment.
De ça, au-delà de ça.
Mais être français, c'est quoi? La question ici peut renvoyer à une coexistence parfois mal vécue entre les communautés.
À l'heure actuelle, aujourd'hui, il faudrait presque se cacher derrière autre chose que derrière le drapeau français. Je pense que c'est pas logique. Se cacher de qui? De la façon dont on peut être vu en France. On est mal vu, suffit qu'on impose le drapeau français, on devient extrême droite, tout simplement.
Les privilèges du reste de la société, et moi j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, parce qu'il faut bien leur donner un nom, les Blancs.
Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un caractère positif à l'oubli? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi savoir oublier?
Si, ça a été dit d'ailleurs par Renan. Renan dit qu'une nation, c'est aussi un certain nombre d'oublis, et pas seulement un certain nombre de mémorations. Et surtout, ça a été dit dans un très grand moment de l'histoire de France, au sortir des guerres de religion, l'édit de Nantes. Et ça, je trouve, on devrait s'en souvenir aujourd'hui. Le premier geste de l'édit de Nantes, dans les deux premiers articles, c'est de dire il sera désormais interdit de se remémorer les guerres civiles du passé. Donc l'État, au sortir d'une crise majeure, n'avait pas hésité en 1598 à imposer un devoir d'oubli. Et je crois que... Alors, et bien sûr, il ne s'agit pas non plus de tout oublier, parce que oublier, ça peut vouloir dire aussi occulter, et ce n'est pas bon. Mais je crois qu'il faut se méfier, et les historiens sont là pour le dire, d'un devoir de mémoire qui risque d'envahir l'espace public, surtout que les mémoires sont toujours plurielles. Et donc, une nation, ça doit être une sorte de vivre ensemble défini avec un accord minimal commun. Et dans cet accord minimal commun, il faut qu'il y ait de la mémoire. Il faut aussi qu'il y ait une certaine capacité, oui, d'oubli, mais pas au sens d'occultation. Au meilleur sens du mot oubli, dans oubli, il y a amnésie, il y a aussi amnistie d'un certain nombre de choses.
Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas.
Et ces jeunes qu'on dit issus d'immigration, qui sont de jeunes Français, constatent simplement qu'ils subissent des discriminations. Ils essaient d'élucider les raisons de ces discriminations. Et qu'est-ce qu'ils constatent ? Ben voilà, que ce soit du Maghreb, de l'Afrique ou de la Caraïbe, leurs parents viennent de l'ancien empire colonial français.
Il faut quand même introduire la problématique des deux Frances dans la Révolution française et par la suite. Parce qu'il y a effectivement une France qui a opprimé, effectivement il y a une France qui a colonisé, etc. Puis il y a une France qui a libéré. On ne peut pas aussi tout réduire de manière univoque sur le plan historique. Hein. Et il faut rappeler d'ailleurs que les militants anticolonialistes ont joué sur cette opposition de la double France. Ils se sont révoltés, c'est au nom des principes de la République française, contre la France coloniale.
C'est-à-dire que, à mon sens, vu ces derniers temps, et vous l'avez dit au début de cet entretien, des historiens servir des causes politiques, notamment des historiens de gauche. Je pense notamment à toute une frange de militants qui se sont retrouvés autour d'un livre qui s'appelle La fracture coloniale. Comment avez-vous perçu, vous, ce travail-là, et est-ce que vous pensez qu'il est du devoir d'un historien de bousculer un petit peu les tabous?
Oui, c'est de son devoir. Un historien doit être, et je pèse les mots, révisionniste. Rien à voir avec le négationnisme. C'est-à-dire qu'un historien doit toujours, à partir des sources, à partir de l'interprétation des sources et du croisement des sources, réviser les choses acquises, réviser les silences plus ou moins fâcheux et plus ou moins honteux. Mais réviser ne veut pas dire se draper dans les habits du procureur. Donc c'est toujours la même chose. Il y a un certain nombre de devoirs épistémologiques. Et puis il y a, une sorte de ligne jaune sur laquelle souvent se tiennent, à la crête de laquelle se tiennent les historiens, parce que un historien a effectivement dans son travail une dimension citoyenne à l'évidence. Et donc réviser le récit national, surtout lorsque ce récit colporte des ethnotypes, des silences, des occultations, mais en même temps ne pas confondre son travail de mise à distance, de mise à critique, et puis éventuellement une posture de procureur. Et il faudra d'autant plus attention à ne pas le confondre, qu'il y a de l'autre côté, du côté politique, et quelquefois avec la meilleure volonté du monde, la tentation pour les hommes politiques de se mêler d'histoire, quelquefois pour dire par exemple que la colonisation a été globalement positive, quelquefois aussi pour dire il y a eu un génocide des Arméniens en Turquie, et là on voit bien que ça partait d'un bon sentiment, mais je crois que lorsque les hommes politiques font de l'histoire, ils ne sont pas à leur place, et les historiens doivent être donc des intellectuels critiques, mais ne doivent pas confondre la posture scientifique et la leur dans l'exercice de leur métier, et puis une éventuelle posture citoyenne idéologique qui est respectable mais qui doit être en eux, me semble-t-il, clairement séparée.
Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle.
Je crois qu'il y a une question qui est très importante, c'est qu'il y a une pression des groupes de mémoire dans la société française aujourd'hui pour faire en sorte, effectivement, que leur vécu, leur douleur soit prise en compte et reconnue.
Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens.
Merci à Patrick Cabanel. Je vous rappelle qu'il est l'auteur d'un ouvrage publié aux éditions Belin et qui a pour titre « Le tour de la nation par des enfants », une étude sur les romans scolaires qui, en Europe, ont fait nation, comme ce fut le cas en France, avec le célèbre livre « Le tour de la France par deux enfants ».